cette ce premier exposé qui montre qu'il y a vraiment une volonté active derrière de changer les choses. C'est pas seulement ici une réflexion sur l'évolution des rapports des éditeurs et des chercheurs, c'est vraiment une action qui a participé et qui risque de changer les choses, j'espère. On compte beaucoup à les différents points de vue à être d'accord avec tout ça, évidemment. Alors juste un point sur le COMETS, bon, c'est vrai, ton texte n'est pas passé. C'était à la fin du COMETS et il n'avait pas été approuvé, c'est tout. Hein, mais je crois que Jean-Pierre a fait une version soft pour bon, enfin bref. Mais il faudra de toute façon.
Quelques détails qui font qu'il y a eu un lobbying qui fait qu'on a enlevé les parties les plus intéressantes.
Bon, alors moi je vais vous parler de. C'est vrai que je vais vous parler de, en tant que chercheur, mais aussi en tant que participant activement au courant Creative Commons et en particulier au lancement d'un chapitre national, puisque je ne sais pas si vous connaissez l'organisation Creative Commons. Ici on a quelqu'un du headquarter. Dans notre bio qui vous parlera après moi. Et mais cette organisation, si je puis dire, mondiale, fonctionne par chapitre. Actuellement, je crois qu'on a autour de 80 chapitres au monde. Alors pourquoi des chapitres? C'est pas seulement de l'organisation. Le contenu est réel, est réellement utile, puisque l'idée, contrairement aux licences des logiciels libres, les licences concernant le droit d'auteur, ont besoin d'être adaptés, alors traduites évidemment, mais adaptées dans chaque système juridique, puisque, comme vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, les systèmes juridiques, bien qu'ayant une certaine, une certaine communauté de pensée, ne serait-ce que par la Convention de Berne, au niveau européen, par un certain nombre de textes, en fait, ils en font un petit peu qu'à leur tête, suivant les... l'organisation du droit d'auteur dans chaque pays avec le poids des sociétés de gestion collective, etc. En fait, c'est vraiment une organisation assez complexe, le droit d'auteur, ce qui veut dire que c'est difficile à changer et que le travail qui est entrepris, notamment ici, à mon avis, il n'est pas gagné, hein, il n'est pas gagné du tout. Alors, donc, Creative Commons est organisé sous forme de chapitres nationaux et nous-mêmes, avec Mélanie Dumont-Renet, on a créé ce chapitre, on l'a lancé après avoir écouté Laurence Lessy qui était venue faire une conférence à Paris, c'était en 2003. Voilà, donc c'est assez ancien, je puis dire. On a fêté les 10 ans. La question, c'est que, là, je ne vais pas faire, le but n'est pas de faire un bilan, mais malgré tout, vous allez le voir de façon plus ou moins latérale. C'est vrai que ces 10 ans de travail, 10 ans de traduction, 10 ans d'essayer de faire un travail dans la communauté, ce qui n'est pas non plus le travail du chapitre, mais voilà, il a fallu pousser cette idée d'une soft law, hein, puisque Creative Commons c'est de la soft law, c'est-à-dire que par rapport, on n'a pas la prétention de lobbyiser le Parlement pour changer tout de suite le droit d'auteur, ça ne marche pas, on le sait. Donc la soft law, c'est d'autres moyens pour essayer sinon changer, mais tout au moins de sensibiliser à une question qui ne peut pas être traitée directement résolue par une loi. Et non seulement cette sensibilisation, mais aussi d'autres moyens, parce qu'il n'y a pas que la loi qui régule la société, il y a d'autres moyens, il y a l'éthique, hein, mais il y a aussi les règles techniques. Les règles techniques, c'est aussi des moyens, et on voit bien par Internet le rôle de la régulation technique. D'ailleurs a une légitimité au niveau constitutionnel plus ou moins contestable. L'exemple des DRM, par exemple, des dispositifs de régulation pour bloquer ou réguler l'accès à des contenus, bon, on s'est aperçu que dans certains cas, c'était des décisions qui étaient prises par les éditeurs et que les décisions s'appuyaient sur des règles de droit qui étaient elles-mêmes extrêmement contestables, notamment le refus de la copie privée, qui est quand même encore un des éléments du droit français. Donc vous voyez qu'il y a le droit, mais il y a la régulation technique qui doit être surveillée, hein, parce qu'il n'y a pas d'instance actuellement du type un parlement élu, un contrôle judiciaire, poste, etc. Donc c'est une régulation technique un peu sauvage, on va dire, qui émerge, et heureusement qu'il y a la sensibilité de la toile, du réseau, pour essayer sans cesse de corriger, montrer, démontrer les abus de tout ça. Et puis alors je dis, il y a tout l'aspect soft law côté éthique qui a aussi un rôle très important dans la vie. D'abord parce que l'éthique, c'est pas seulement un pré-droit. Il y a beaucoup de questions qui ne peuvent pas être traitées par le droit. Et moi, je me bats en tant que juriste pour dire que le droit n'est qu'une partie de la régulation d'une société. Hein. Voilà, donc c'est pour vous dire que d'une certaine façon, tous les gens qui ont d'autres moyens pour essayer d'organiser les comportements, de moraliser, de donner de nouveaux principes, eh bien, ils ont aussi l'accès à cette tribune qui est celle de la soft law. Alors, bon, moi, je vous parlais des licences, parce que je ne crois pas que vous en ayez parlé hier. Et l'idée fondamentale, je ne suis pas la seule à l'avoir, c'est que depuis que Creative Commons a été créé, c'était dans un monde fermé d'un droit d'auteur fondé sur l'exclusivité. Maintenant, c'est vrai qu'on voit une certaine ouverture, mais le modèle économique n'a pas vraiment changé. Hein. Donc, il s'est juste déplacé. Et c'est de ça dont je vais vous parler. C'est-à-dire qu'en fait, il semble que même si le modèle économique va vers une certaine ouverture, on voit très bien que l'ouverture, elle ne se fait pas du tout dans le sens où on voudrait. C'est-à-dire, on va faire une ouverture payante. Or, l'histoire de l'ouverture à l'open access, c'est fondée sur une autre idée, notamment de la gratuité. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Donc, moi, il me semble qu'il est intéressant de dire que maintenant, les licences Creative Commons, ce n'est pas seulement les licences, on va dire, alternatives ou complémentaires aux droits d'auteur, dans un monde fermé. Depuis 10 ans, 12 ans, le monde, c'est tout, la connaissance scientifique, la publication, et maintenant les données, c'est ouvert. Et les licences de type Creative Commons, il y en a d'autres, hein, mais celles de type Creative Commons, ont pour objet de traiter justement de ce nouveau monde où il y a une certaine ouverture, mais avec un modèle économique qui est en train justement de se reconfigurer par rapport à la gratuité, l'accès, etc. Donc, on va voir ça. Alors, donc, je vais reprendre dans une première partie, j'espère que je ne vais pas redire ce que vous avez dit, c'est toujours le même problème quand on arrive un petit peu le deuxième jour. Mais alors, donc, je parlais des différents aspects de l'open access et des licences d'usage, on va s'appeler ça des licences d'usage. Pour l'instant, je ne les définis pas comme gratuites ou ouvertes. Et l'intérêt, donc, des licences CC dans ce contexte. Alors, premier point, l'open access aux publications scientifiques, hein, c'est vraiment le domaine, parce qu'on pourrait dire aussi l'open access à autre chose que les publications et autre chose que la science. Hein. Le domaine de l'open access commence à devenir extrêmement large, ne serait-ce que par l'open access aux données publiques qui sont gérées par, notamment en France et Dalab. Alors, donc, je vais parler que des publications scientifiques. Alors, l'origine de l'open access, c'était donc un mouvement de chercheurs, et le but donc était un accès ouvert au sens de gratuit. On a cette difficulté avec le mot free en français. C'était donc accès ouvert au sens de gratuit, et le versus était fermé payant, et c'était le portail des revues propriétaires traditionnelles. Alors, ça c'est l'origine. Ensuite, en 91, c'est quand même pas récent, Archive, dépôt de préprints de publication, et puis bien sûr, ce qui a été dit, Budapest, Berlin, et donc toujours la question de l'accès gratuit assorti du droit de copie, de redistribution, mais ce qui reste vraiment un point très important, c'est la réutilisation. Et moi je vous dis que un des aspects importants de Creative Commons, c'est la question de la réutilisation, du reuse, ce que ne font pas beaucoup de licences. Alors, les questions posées par l'open access, il y a une question politique scientifique au sens large, au sens noble, je veux dire, on est obligé de préciser maintenant qu'il y a une question politique au sens noble. De l'accès universel et partagé à la connaissance, ça c'est un débat, et à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir avec le contrat individuel du chercheur avec sa maison d'édition, hein, et ça je vais revenir là-dessus, la question politique est bien plus large. Et c'est pour ça que nos institutions sont concernées de plus en plus, et il faut absolument les impliquer. Mais surtout celui du modèle économique, dont on va parler aussi. Alors, open access, alors, gratuit, ouvert et libre. Alors, à minima, dans l'open access, il y a l'idée, une tendance, l'accès gratuit sur Internet. On appelle ça le gratis open access. Et là, cette ouverture, il n'y a pas de licence, il n'y a rien, et aucun droit n'est accordé. pouvez l'utiliser, c'est gratuit, mais on ne connaît pas les droits. Donc il y a un problème quand même au départ. Alors, l'open access peut être aussi régi par des licences. Alors là, on appelle en anglais libre open access. Et à l'intérieur, vous avez les licences libres et les licences ouvertes. J'en reviendrai là-dessus. Et puis, vous avez un troisième aspect qu'il ne faut pas bien sûr oublier, puisque c'est de ça dont Marie a parlé, les contrats d'édition. Hein, parce que l'open access, il y a aussi des contrats d'édition qui sont sur l'open access maintenant. Alors, les différences entre licence ouverte et licence libre, c'est quand même assez fondamental. Donc, une licence ouverte peut comporter des restrictions d'utilisation, par exemple interdire les modifications, alors qu'une licence libre, au sens traditionnel, ne doit pas comporter de Free Software Foundation, ne doit pas comporter de restrictions. Donc, vous voyez, une licence ouverte, elle peut être ouverte avec des restrictions. Vous pouvez ouvrir les portes de chez vous, mais avec des vous essuyez les pieds. Bon. Alors qu'une licence libre ne doit pas avoir de restrictions. Voilà en gros, bien sûr, toutes ces définitions, c'est purement des tendances, tout ça peut évoluer. Alors, les licences Creative Commons sont des licences ouvertes, et on va dire aussi qu'elles sont aussi libres. Et la dernière, qui vient d'être traduite en français d'ailleurs, la CC0, elle est plutôt une licence libre, parce que, en fait, le but c'est d'avoir le moins possible de restrictions. Alors je dirais le moins possible parce que. Il existe toujours quelques restrictions, ne serait-ce que celles qui sont liées aux droits d'auteur. Et comme vous le savez, Creative Commons, et je précise, notre but, ce n'est pas un droit d'auteur alternatif, l'alternative au droit d'auteur, non, c'est complémentaire au droit d'auteur. Nous ne sommes pas en train de dire « il ne faut pas appliquer le droit d'auteur ». On se mettrait là, en dehors de la loi, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Voilà. Donc là aussi, on entend beaucoup de choses sur Creative Commons, mais j'essaie toujours de rectifier à certains d'idées. Alors, les licences libres Creative Commons, donc, chaque licence, il y a 6 options. Hein. Il y a une licence, bon, ça dépend si on parle des options par licence, mais en gros, la licence CC ou les licences CC comportent 6 options combinées. Et chaque licence donc, se différencie selon des options sélectionnées par l'auteur qui souhaite informer le public, très important, informer. Un travail d'information, d'explicitation, que certaines utilisations sont autorisées à l'avance. Autorisées à l'avance, ça veut dire que si vous utilisez les licences Creative Commons, vous évitez ce qu'on appelle les coûts de transaction. Ça vous est obligé d'aller rechercher, comme très souvent, en étant de très bonne foi, vous tombez sur des documents, des articles sur Internet, vous ne savez absolument pas comment joindre la personne pour la réutiliser, etc. Internet, c'est un vrai chaos, il faut le dire quand même. Hein. Alors, donc, bien qu'elles soient interdites par défaut sous le régime du droit d'auteur. Moi, je dis toujours, les licences Creative Commons, c'est pas le droit d'interdire, parce qu'on vous présente les licences comme le droit d'interdire. Moi, je dis que c'est un droit beaucoup plus important, c'est la liberté d'autoriser. Et la liberté d'autoriser, c'est aussi un droit. D'accord ? Donc, au lieu de dire, d'être dans un bunker et de dire, ne touchez pas, pas touche à mon œuvre, eh bien, vous dites, je suis auteur de cette œuvre, et à ce titre-là, je me permets gentiment de vous proposer ce que je peux vous offrir. Ce qui est absolument différent comme attitude. Alors, les conditions, je répétais brièvement les conditions communes de CC, accès ouvert et gratuit, là, du coup, c'est clair, sauf, évidemment, la clause non commerciale, qui est souvent critiquée, mais qui permet, effectivement, d'aller du plus ouvert au plus fermé. C'est-à-dire, au plus fermé, bah, c'est le business-like, c'est la frange business-like de Creative Commons, que Steinman reproche sans arrêt à Lessig, mais on peut aussi faire du business avec Creative Commons. Voilà. Alors, reproduire, distribuer, communiquer l'œuvre au public à titre gratuit, y compris dans les collections, hein, c'est-à-dire dans y compris les banques de données, sur les réseaux peer-to-peer. Alors, les conditions optionnelles, il y en a 6, je vous l'ai dit, hein, la paternité, excusez-moi, je n'ai pas corrigé, ça a été considéré comme incorrect, politiquement incorrect, maintenant on parle d'attribution. Hein. Alors, donc, ça c'est la CC BY, c'est la plus ouverte. Hein. Et puis, la plus fermée, eh bien, attribution, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions identiques. Alors, donc, on était dans l'ouverture, l'open, vous voyez ici, c'est simple, on peut imaginer un spectre, donc, où les licences Creative Commons vont du plus ouvert au plus fermé. Donc, CC0, le plus ouvert, CC BY, ça veut dire que vous avez le droit de façon ouverte, à condition que vous, vous le remettiez dans le pot commun, hein, c'est la vérité. Et puis, le moins ouvert, le bail NCND, c'est que vous demandez à ce que votre œuvre ne soit pas changée en quoi que ce soit, pas adaptée, etc. Alors, le dernier point, j'ai parlé donc des. Donc, pas de licence, des licences ouvertes ou des licences libres ouvertes, et puis ensuite des contrats. Alors là, on tombe dans le. Ce que vous savez certainement, la voie dorée, la voie verte. La voie dorée, oui, il y a des contrats, c'est fondamental, il faut le dire, hein, c'est des contrats, c'est pas automatique. Hein. Rien n'est automatique, mais c'est comme un abonnement à EDF, peut-être vous n'avez pas l'impression de signer, mais il y a des, vous engagez, hein, voilà. Alors, c'est l'auteur payeur, c'est les revues donc, en accès ouvert, mais payant. Et puis la voie verte. Alors la voie verte, c'est une voie effectivement qui, sur la, là-dessus, si vous voulez, on peut, alors bien sûr on peut travailler sur la voie dorée, mais la voie verte quand même, là, elle nous appartient en tant que chercheur. C'est la voie sur laquelle on peut avoir une attitude, sinon offensive, mais tout au moins conséquente. Les auteurs déposent une copie de leur article sur un site personnel ou une archive, alors avec licence ou pas, et c'est là que la question se pose, souvent sans licence et pas de contrat. Il y a pratiquement, il y a une terre refuse quelquefois, bon, mais il n'y a pas de. C'est global, c'est vous comment vous utilisez la plateforme, c'est pas comment quelqu'un va utiliser votre travail, votre œuvre qui est sur la plateforme, ce qui est encore autre chose, d'accord? Alors, la voie verte, comme je dis, c'est l'incertitude actuellement, et pourtant, c'est un domaine qui nous concerne, qui concerne nos institutions, qui concerne les politiques scientifiques de l'information. Alors, là, sur RAL, ça a déjà été signalé, il n'y a pas de fonction choix de licence. C'est-à-dire, vous déposez un travail, un article, un pré-article sur RAL, eh bien, il n'y a pas de fonction disant, bah, écoutez, je veux bien le mettre à condition que, sur quel type de licence, etc. C'est quand même assez embêtant, il semble que ça va changer. On attend toujours la version actuelle, je pense qu'elle va venir, mais ça serait quand même intéressant qu'il y ait une fonction choix de licence par l'auteur. Voilà. Alors, si on veut faire un choix de licence, c'est un de mes collègues qui l'avait signalé, il avait voulu effectivement le faire, ça lui avait pas pris du temps, il faut mettre le choix de licence à l'intérieur de l'article. Mais donc, toutes les fonctions du web, évidemment, ne sont pas utilisées. C'est comme dire remerciement, etc. Donc, ça n'a pas de valeur, vraiment. C'est une valeur aussi juridique, mais c'est quand même dommage. Alors, le statut des contenus, on ne sait pas, là-dessus, il y a quand même. Est-ce que c'est un travail fini? Le versionning n'est pas tout à fait clair. Moi, je pense qu'il y aura un vrai travail là-dessus. Et puis, il y a un problème de reproprietarisation. J'aimerais dire ce truc, mais ce n'est pas grave. C'est important, c'est ce qu'on appelle aussi les enclosures, les nouvelles enclosures. C'est-à-dire que très, très habilement, il y a un certain nombre de gens qui repompent les archives et qui ne donnent absolument pas tout. Les origines des articles. Moi, je sais que j'ai un article qui c'était pas mal, mais qui a été mis sur un site et on ne sait absolument pas qu'il est sorti d'une revue qui n'a rien pour l'instant. Mais je trouve ça quand même un peu désagréable qu'on ne mette pas, quand on réutilise des documents, des articles, des contenus, qu'on ne mette pas les références exactes d'où viennent ces articles. Ça, c'est vraiment absolument unfair. Hein. C'est pas très honnête. Alors, mes réponses, alors, position éthique, alors là, je parlais un peu du COMETS. Le 29 juin 2012, les membres du COMETS ont adopté un avis sur le libre accès aux publications scientifiques. Libre accès aux publications scientifiques, là, on parle de libre accès, pas d'accès ouvert. Mais, bien sûr, ce texte peut être amélioré, il a déjà 2 ans. Il fait suite à un avis formulé en 2011 portant sur les relations entre chercheurs et maisons d'édition. On voit déjà très bien qu'il y a eu une évolution. Et puis, donc, on est en train de préparer un avis sur le data sharing ou l'accès aux grandes bases de données à Paris prochainement. Le problème des data, évidemment, devient très, très important, comme vous le savez. Alors, les recommandations du COMETS, en 2013, j'aurais dit en 2012 d'ailleurs, oui. Bref, alors, en gros, je résume pour nous ici. Demande d'implication du CNRS dans les politiques de publication. C'est la première recommandation. Et ça, c'est fondamental. Je pense que les chercheurs ne sont pas des auteurs ordinaires. Pour plein de raisons, on pourrait les énumérer. Ce sont en général des chercheurs publics. Ils ont des missions de service public. Et moi, je regrette beaucoup que toutes les tendances libérale actuellement au sens noble du terme font une confusion. Alors les chercheurs, c'est pas vrai, les chercheurs privés, les chercheurs publics n'ont pas les mêmes missions. Il faut regarder le décret de 84, vous verrez, n'a pas les mêmes missions. Et ça, c'est une explication très simple pour montrer que même dans un contrat, dans un consortium, il y a une ambiguïté, un chercheur public, un chercheur payé par le fonctionnaire, en gros, hein, parce qu'en plus nous sommes fonctionnaires, eh bien n'a pas les mêmes obligations qu'un chercheur venant du privé. Ça me paraît tellement évident, mais ça, personne n'en parle. Alors voilà, c'est un peu gênant. En tout cas, le CNRS, ça me paraît être là une façon de réintroduire une sorte d'ombrelle, enfin de parapluie institutionnel fondamental pour définir une politique à laquelle les chercheurs doivent se rattacher. Bien sûr, il leur reste toujours une marge de manœuvre en tant qu'auteur, mais leur marge de manœuvre, contrairement à Victor Hugo, etc., elle est quand même contrainte par des politiques publiques, et notamment les politiques publiques d'information scientifique et technique. Alors, on avait aussi dit promouvoir l'utilisation de l'accès Green, l'accès AAL, on demandait un certain nombre de modifications, et on disait que c'était plutôt le Green, enfin le vert qui nous intéressait et qu'il fallait promouvoir plutôt que le doré. On a vu que l'Académie des sciences, là, elle vient de sortir un rapport, mais au contraire, elle pense qu'il faut mieux le doré. Bon, le débat reste ouvert. Alors, l'information auprès des chercheurs en le recommandant de ne pas renoncer à leurs droits, ça c'est important aussi. De prévenir les chercheurs qui ne signent pas n'importe quoi pour satisfaire leur ego ou même la bibliométrie, mais qu'il y a quand même un minimum de conscience, d'appartenance à une collectivité, à une communauté qui me paraît nécessaire. Alors, mais il n'y a rien sur les licences. Ça, c'est là aussi quelque chose qu'on pourrait améliorer. Alors, les stratégies institutionnelles, en ce moment, elles se sont développées. Vous connaissez le plan stratégique du CNRS qui est en train de se mettre en place. Le COMES, d'ailleurs, y participe dans cet aspect charte éthique. Et puis, bon, moi je viens de Munich, j'étais invitée au Max Planck Digital Library. Alors là, c'est quand même assez intéressant la façon, je parle pas seulement de leur production, mais aussi de la façon dont ils sont organisés. Bon, le Max Planck, c'est un CNRS beaucoup moins, si vous voulez, beaucoup moins important au niveau quantitatif, au niveau qualitatif. C'est vraiment une Gesellschaft extrêmement puissante. Et ils ont tout regroupé à Munich, toutes les questions concernant l'information scientifique et technique. Et l'information scientifique et technique, c'est pas seulement la distribution, c'est tout le processus, et maintenant, avec les négociations avec les éditeurs, etc., etc., et l'open access payant, ils gèrent l'ensemble du processus d'information, du début à la fin. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. J'espère qu'on arrivera vers cette espèce d'homogénéisation, parce que franchement, tous les points doivent être traités ensemble. C'est difficile, c'est un système. Alors, les politiques européennes, vous les connaissez, bon, H2020, mais je vais juste les redire. L'open access publishing et l'archivage sont considérés comme valides et des routes complémentaires, donc pas d'opposition. Donc, il faut déposer dans les archives, y compris dans le cas de l'open access publishing. Donc, vous voyez comment il faut négocier les deux en même temps. Alors là, il est question aussi du coût. Bah, les coûts, c'est simple. L'open access, eh bien, les coûts de l'open access seront pris en charge pendant la bourse, pendant le. Voilà. Et puis, même après, à la fin, il est prévu aussi de gérer un mécanisme d'open access publishing au niveau européen, mais je crois que ce n'est pas encore tout organisé. Alors, le licensing, c'est intéressant parce que là, on voit bien que c'est un des éléments fondamentaux. Hein. Encouragement aux auteurs, donc à retenir leur copyright et à se doter de licences adéquates, et ils signalent, ils n'ont pas eu peur de mettre Creative Commons. Quelquefois en France, on ne sait pas mettre Creative Commons parce qu'on dit mais non, mais ils sont américains, c'est prendre parti, etc. Donc Creative Commons, qu'on fait n'importe quoi, c'est complètement égal. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu tellement de gens à travailler là-dessus, c'est tellement international que si la France veut faire elle-même ses petites licences, eh bien on verra ce que ça donne, mais ça, à mon avis, on ne progressera pas dans le monde de la science. Alors, ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est que la question de la policy, la question des politiques institutionnelles, c'est une question qui est née depuis 2-3 ans, elle est fondamentale. Alors, d'ailleurs, Pontaine vous en parlera. Maintenant, il y a un nouveau département à Mountain View qui parle seulement qui met en œuvre, disons, ce network. Donc, on ne parlait pas vraiment de ça avant, mais maintenant, depuis 2 ans, ça devient fondamentale. Ce qui veut dire qu'on réintroduit dans le droit d'auteur ce face-à-face maudit entre l'éditeur et l'auteur, qui arrange beaucoup les éditeurs, parce que, si vous voulez, il y a une asymétrie totale dans ce contrat. Une asymétrie, comment voulez-vous discuter avec Elsevier? Moi, j'ai encore vu dernièrement, c'est absolument de laisser des auteurs seuls en face des maisons d'édition dans situation de monopole, je trouve ça mais grave. Je ne comprends même pas que nos institutions ne se soient pas occupées de ça avant. Alors, maintenant, le deuxième point, argument du vraiment besoin. Alors, pourquoi on a vraiment besoin de ces licences? Alors, premier point, les licences Creative Commons s'appliquent au contenu relevant du droit d'auteur. Les articles scientifiques, on peut dire ce qu'on veut, ce ne sont pas des articles, ce ne sont pas des essais, ce ne sont pas des articles dans d'autres domaines, ce n'est pas du journalisme, etc. Mais il y a des contenus et ils relèvent du droit d'auteur. Certains le regrettent, je discutais justement hier, mais les idées, au fond, elles peuvent. C'est du collectif un article, parce que d'où vient un article, même si c'est pas si l'idée n'a pas été signée, mais il y a toujours une combinaison collective, donc il y a quand même un aspect important. L'open data scientifique soulève de plus en plus de questions en termes de compliance, c'est-à-dire de conformité aux lois, aux chartes, etc., et de piratage, notion d'intégrité notamment. Et l'open data scientifique s'inscrit dans des politiques institutionnelles et des contrats privés. Alors, le premier argument, bon, je vais en revenir, pourquoi ça marche dans Creative Commons, parce que d'abord, ça marche sur des contenus. Hein. Et comme vous le savez, je vous rappelle juste les fondements du droit d'auteur en France, en général, c'est l'originalité. Il faut qu'il y ait une originalité. Il faut une forme écrite. Alors l'originalité, ça le juge se délecte. Hein. Il y a toute une jurisprudence absolument passionnante. Qu'est-ce que c'est qu'un travail original, une idée originale, etc. Oui, je sais. La forme écrite, il faut une forme. Alors, évidemment, là aussi, on voit bien que ce droit d'auteur devra évoluer. Hein. Il y avait un article très intéressant dans Le Monde il y a deux jours sur la rédaction, sur le robot automatique d'écriture. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et on se demande maintenant si la forme, comme maintenant un certain nombre d'articles vont être faits, à partir de données disponibles, dans des structures déjà préprogrammées, adaptées, la forme originale, à mon avis, on se pose la question de savoir où elle sera. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, il y a l'option attribution qui est très forte, parce qu'en science, il y a des auteurs, ils ont des rôles différents, il y a des citations, et il y a la bibliométrie. Donc, l'auteur est fondamental en science. Et il faut qu'il soit cité. Il y en a plusieurs, ils interviennent. Voilà la question fondamentale. L'option réutilisation est une vraie question. Il y a un de mes collègues qui a aussi parlé de ça. La réutilisation, ça ne veut pas dire la repropriétarisation. Or, il y a eu quelques cas qui ont été corrigés, notamment Science and Work, que je vois de mes collègues ici. Ça, c'est très important. Le seul fait de capturer certaines des ressources du site vaut acceptation des conditions de cession proposées. Ça, les gens ne savent pas ça sur Creative Commons. Et ça, c'est un point fondamental. Même si vous ne l'avez pas encore signé, etc., le fait de que vous captiez à l'intérieur d'une ressource des éléments, ça veut dire que vous acceptez les conditions de cession proposées. Alors attention, c'est Creative Commons, alors je crois que sinon, ça passera. Non. En fait, Creative Commons est beaucoup plus contraignant qu'on le croit. Hein. Mais il est contraignant dans le sens d'une éthique. Une éthique de la communauté. C'est ça qui est plus grand intéressant. Alors, on va pas. Je vais passer un peu vite. Le deuxième argument, là aussi, est important sur l'intérêt des licences et des options Creative Commons. Les licences s'appuient sur les droits. Le droit d'auteur s'appuie sur le droit exclusif de l'auteur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur lui-même dise quelle est la disponibilité de son œuvre, et ne serait-ce que par le logo. Le logo, il ne dit rien sur l'option de la licence, mais on voit tout de suite qu'il s'agit de Creative Commons. C'est aussi une façon de responsabiliser l'auteur par rapport à la volonté qu'il a vis-à-vis des tiers. Troisième argument, il peut retenir. Donc, il peut utiliser ses droits pour les donner. Je suis propriétaire de ce stylo. C'est parce que je suis propriétaire de ce stylo que j'ai des droits sur ce stylo que je peux vous le céder ou vous le prêter. Donc, c'est ça la force de Creative Commons. C'est de partir de l'existant. Il y a un droit de propriété. Et c'est parce qu'il y a une titularisation, il y a un titulaire que vous pouvez donner. Et la deuxième chose, c'est que parce que vous êtes titulaire, eh bien vous pouvez aussi le retenir. Je peux dire non, jamais ce crayon je vous prêterai, je le prêterai seulement à des gens du CNRS. Car, bon, j'ai le droit. Donc je peux, parce que je suis titulaire, je peux donner plus que le droit d'auteur me permet, et parce que je suis titulaire, je peux retenir mes droits et les donner à qui je veux, et y compris interdire à d'autres. Donc ça, c'est quand même assez fondamental, et c'est là-dessus que est créé Creative Commons. Donc l'écosystème de l'article scientifique, il faudra en reparler, mais c'est un écosystème, c'est pas seulement la création individuelle, personnelle, personnaliste, puisque le droit d'auteur est fondé quand même sur un droit extrêmement personnaliste, c'est pas ça qui va avec les publications scientifiques. Il y a un écosystème institutionnel, éthique, stratégique et citoyen. Donc là, on n'est pas dans le droit d'auteur classique. Très brièvement aussi, l'ouverture crée des dangers, hein, l'open access crée des dangers, intégrité, piratage, c'est vrai. Et il n'y a pas de déclaration, ça il faut le savoir aussi en droit français. Alors qu'en droit américain, vous avez le petit C d'ailleurs, donc, qui a été détourné pour faire cesser, hein, mais vous devez déclarer, enfin il y a une action volontaire pour dire que c'est vous qui êtes l'auteur d'une œuvre. En France, le droit d'auteur, vous n'avez besoin d'aucune déclaration, contrairement au brevet. Ça, c'est faut dire. Donc, qu'est-ce que fait au moins, au minimum, la licence CC? C'est qu'elle vous donne la possibilité de dire, attention, je sais que je suis l'auteur, hein, je suis pas, ne dites pas que vous ne savez pas. Question de la mauvaise foi. Hein. La mauvaise foi est extrêmement importante sur Internet. Le nombre de jeunes, oh, ben, je l'ai pris, il n'y avait rien, il n'y a pas de nom. Mais, bon. Tout ce qui est sur Internet, il y a des auteurs. Obligatoirement derrière. Ils peuvent donner, mais il faut quand même le savoir. Alors, le vraiment besoin, alors là je précise, donc les licences Creative Commons s'appliquent au contenu, ce sont les contenus, donc ça marche. L'open data soulève de plus en plus de questions en termes de compliance, de compliance, et donc l'auteur affirme ses droits originels par les licences CC. Et puis le troisième point, l'auteur doit réserver ses droits en amont de la diffusion, parce qu'il est soumis aussi à l'autorité. C'est dommage de dire ça dans le niveau scientifique, mais il y a quand même une autorité quelque part, c'est le CNRS, il faut la reconnaître. Voilà, alors, je voulais vous donner quelques éléments sur où en est Creative Commons. Bon, c'est vrai que ça marche quand même un petit peu dans le monde de l'édition, de plus en plus, le monde de la musique. Ça marche aussi parce qu'il y a l'extension de la notion de commun, comme vous le savez, et il y a le commun matériel, mais aussi les communs numériques, et nous, on participe aussi de ce mouvement. Il y a aussi les modèles économiques qui sont de plus en plus ouverts. Alors, vous connaissez cette notion d'effet de réseau, plus un produit est consommé, plus il est utile, l'utilité croît avec le nombre d'utilisateurs. Ça, c'est des arguments qu'on donne, qu'on nous dit, mais vous savez, les auteurs ont besoin de manger. Hein, si j'ai entendu une fois, mais d'accord, ils ont besoin de manger, mais c'est pas parce qu'ils mettent tous les barrages autour de leur œuvre qu'ils gagneront beaucoup d'argent. Alors, je vais terminer, c'est pratiquement terminé. Je voulais terminer sur Romeo, le site qui est quand même extrêmement intéressant, qui montre quand même de façon un peu optimiste que 73% des publieurs, comment tu appelles ça ? Publishers. Qui participent à cette plateforme, donc, ont admis une certaine forme de self-archiving. Ça veut dire que là, si on a vraiment quelque chose à faire, c'est sur le green. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur le doré, mais nous, en tant que chercheurs, en tant que des scientifiques, on a des choses à faire et c'est en train de progresser. Alors, je terminerai. Dans un monde fermé, le droit d'auteur s'applique totalement et par défaut. Bon, c'est comme s'il n'y a pas de contrat. C'est la loi qui s'applique. Concrètement, vous devez vous soumettre à la loi, même si elle est en votre faveur. Et dans un monde ouvert, celui de l'open data, il faut utiliser licence comme Creative Commons pour protéger les droits et autorisations réservées. C'est-à-dire que vous devez obligatoirement quand même utiliser pour ce que vous avez réservé, vous devez l'affirmer positivement. C'est ce qu'on appelle la liberté d'autoriser plutôt que l'interdiction d'utiliser. Voilà. Bon. Merci.